Ce matin, nous croyons que le Seigneur est là par ce Saint-Esprit qu'il a répandu sur son Église. Mettons-nous donc à son écoute ce matin, permettons au Seigneur de nous parler. Et ce matin, nous allons se mettre à son écoute à travers un passage dans l'Épître aux Hébreux. Si vous avez votre Bible, trouvez l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Et nous allons lire ce chapitre à partir du début, du premier verset. Hébreux, chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put emmener son père à changer de sentiment. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration « Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. » Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car c'est ceux qui refusaient d'entendre celui qui publièrent des oracles sur la terre n'ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Cette lettre aux Hébreux, donc aux chrétiens sortis du judaïsme à l'époque du Nouveau Testament, est écrite pour les encourager à continuer jusqu'au bout. C'était des chrétiens qui devaient souffrir pour leur foi. Ils subissaient les conséquences d'avoir choisi de suivre Jésus. Et du coup, ils étaient mal vus des autres juifs, souvent ils étaient persécutés, ils perdaient les liens de famille parce que les familles ne voulaient pas de chrétiens parmi eux, et parfois ils perdaient leur travail parce qu'ils étaient chrétiens. Et l'auteur voit qu'il y a un danger que ces personnes, face aux difficultés de la vie, abandonnent et se disent finalement on ferait mieux de retourner là d'où on vient pour être tranquille. Justement, j'ai parlé du fait que samedi prochain nous aurons ce culte de baptême. Lorsqu'on se réunit pour faire les préparations au baptême, un des points qu'on voit, c'est l'importance d'aller jusqu'au bout dans la vie chrétienne. Le baptême ne sert finalement à rien si c'est juste pour s'arrêter une semaine plus tard. Ce n'est pas ce rite qui va nous sauver au dernier jour. C'est notre relation avec le Seigneur. Quand il y avait des gens qui, Jésus dit, se présentent devant lui au dernier jour, ils sont passés par des rites, ils ont suivi certains rites. Mais Jésus dit, le problème, c'est que je ne te connaissais pas, je ne t'ai pas connu. C'est cette relation avec le Seigneur qui va jusqu'au bout, qui nous permet d'avoir cette assurance du salut. Et donc, dans ce chapitre 12, l'auteur va encourager ces chrétiens-là, et donc, du coup, nous aussi, aujourd'hui, à continuer jusqu'au bout. Et pour nous renforcer dans cette détermination d'aller jusqu'au bout, il nous encourage à regarder dans trois directions en particulier pour trouver l'inspiration qu'il nous faut pour persévérer jusqu'au bout de notre vie, de notre marche chrétienne, ou jusqu'au jour où Jésus reviendra, même si parfois suivre Jésus peut s'avérer difficile. Premièrement donc, il nous encourage à regarder en arrière. Alors si vous êtes chrétien depuis un moment et vous fréquentez des églises depuis un moment, si vous avez lu votre Bible plusieurs fois, sans doute le chapitre 11 de cet épître aux Hébreux va être le chapitre le mieux connu. Ce chapitre qui commence « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère » une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et puis donc, il passe en revue ces anciens dont il parle, qui sont finalement des gens de l'Ancien Testament, qui avaient de la foi, qui ont voulu suivre le Seigneur, qui ont vécu par la foi, qui ont agi par la foi. Et puis, après avoir passé toutes ces personnes en revue, il commence le chapitre 12, donc, Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Si je vous ai parlé de toutes ces personnes de l'Ancien Testament, dit l'auteur, toutes ces personnes qui ont vécu, qui ont agi par la foi, c'est parce que nous aussi, nous nous trouvons dans les mêmes situations et nous sommes appelés à avoir la même foi, à agir de la même manière par la foi que eux ils ont fait. Et donc, nous, nous devons penser à leur exemple pour suivre leur exemple. Pas forcément dans tous les détails. D'ailleurs, l'auteur de cette lettre n'étale pas tous les détails, même bibliques, de leur vie. Il se concentre sur leur foi, sur les choses qu'ils ont fait par la foi pour nous encourager donc à suivre cet exemple de foi et de vivre et d'agir par la foi comme eux, ils ont fait. Il nous dit, ces gens-là, ils nous ont devancés dans leur marche avec le Seigneur, dans cette... Il parle de carrière qui est ouverte devant nous, cette piste que nous avons à suivre dans la vie avec le Seigneur. Il dit, eux, ils sont déjà arrivés au bout de leur course, même si à la fin du chapitre 11, il dit, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Mais il dit quand même, ils sont arrivés jusqu'au bout, par la foi, avec le Seigneur. Et bien du coup, ils arrivent donc avec nous à cette perfection qui représente la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, souligne pourquoi l'auteur a cité toutes ces personnes en exemple dans le chapitre 11, parce que Paul, parlant des gens de foi dans l'Ancien Testament aussi, pouvait écrire « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. » Paul dit, si nous avons ces histoires dans l'Ancien Testament, si Dieu nous a transmis ces textes-là, c'est pour que nous puissions apprendre des exemples des gens, parfois de foi, parfois aussi des gens qui étaient tout le contraire des gens de foi, pour que nous puissions savoir donc comment suivre le Seigneur, l'importance de placer notre foi dans le Seigneur, dans ses voies, d'aller jusqu'au bout avec lui. Et justement, donc, un peu plus loin dans cette lettre aux Hébreux, dans le chapitre 13, verset 7, l'auteur dit là aussi, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Nous sommes donc encouragés à regarder en arrière vers les personnages bibliques, vers les personnages dans l'histoire de l'Église pour suivre leur exemple de foi et pour se dire, ben, tout comme eux, ils sont arrivés jusqu'au bout, moi, je vais aussi suivre cet exemple pour aller jusqu'au bout avec le Seigneur ou je vais éviter de faire naufrage comme eux, ils ont fait. L'apôtre Paul, par exemple, pouvait dire de lui-même dans 2 Timothée 4, verset 7, en arrivant à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et régulièrement, l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens, « Imitez ma foi, suivez mon exemple. » Parce que je suis arrivé jusqu'au bout et j'ai gardé la foi. Donc la Bible nous encourage à regarder en arrière pour suivre de bons exemples, aussi pour éviter les mauvais exemples, pour que nous aussi, nous puissions un jour dire, J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Puis donc, dans le verset 2, après nous avoir encouragé à regarder en arrière, l'auteur nous encourage aussi à regarder en haut pour nous laisser inspirer par, finalement, l'exemple ultime de l'histoire, Jésus lui-même. Alors, Paul, justement, a appliqué ce principe de se laisser inspirer et conduire par des exemples, en faisant parfois référence aussi à sa propre expérience, pour nous montrer ce qu'on devrait considérer comme normal dans la vie chrétienne. L'église de Corinthe était, on pourrait dire, les premiers inventeurs de ce que de nos jours s'appelle l'évangile de la prospérité. Mais finalement, il n'y a rien de nouveau. Déjà, il y avait des chrétiens qui, à l'époque du Nouveau Testament, disaient « Ah ben, c'est fantastique d'être chrétien. On ne peut qu'être gagnant, on ne peut qu'être riche, on ne peut qu'être beau, on ne peut qu'avoir tout ce qu'on veut, on ne peut qu'être en bonne santé, ne jamais avoir de problème, parce que finalement, nous avons cru en Dieu. Et si Dieu, il est ce roi des rois tout-puissant dont on a chanté ce matin, forcément, en tant que chrétien, tout est facile. S'il y a un problème quelconque, on n'a qu'à prier et hop, le problème disparaîtra instantanément. Si on veut être riche, il y avait même des enseignements qui circulaient dans les églises il y a quelques années qui disaient, bah, si vous voulez suivre le Seigneur, vous n'avez qu'à mettre la main dans la poche et vous allez toujours trouver de l'argent dans votre poche parce que le Seigneur va vous bénir. C'est un peu ce qui circulait dans l'église de Corinthe à l'époque de l'apôtre Paul. Eux, ils se sont dit, bah, c'est formidable. Nous suivons le roi des rois, lui, il règne, donc nous aussi. Nous régnons, nous sommes victorieux, nous sommes bien. Faisons une fête parce que ben, Dieu fait de sorte que tout va toujours pour le mieux dans notre vie. L'apôtre Paul, donc, au lieu de simplement leur dire qu'il racontait n'importe quoi, il a dit, vous croyez vraiment que la vie chrétienne, c'est comme ça? Mais vous avez regardé la vie que je mène moi en tant qu'apôtre, choisi par Jésus-Christ pour être votre père spirituel, qui vous a annoncé cet évangile, qui vous a conduit jusqu'au Seigneur. Est-ce que vraiment vous pouvez regarder ma vie et puis après continuer à croire dans cette doctrine? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8, Paul écrit ceci. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Il dit, mais quel dommage que je ne sois pas un simple membre de l'église de Corinthe que j'ai fondée et que je sois apôtre de Jésus-Christ. Parce que bah, apparemment, pour vous, bah, il n'y a que du bien. Alors que pour moi, être chrétien veut parfois dire souffrir. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Eux, ils se disaient sans doute, ah ben nous, on est le premier, on est la tête et pas la queue. Vous avez peut-être déjà entendu. Mais nous, apôtres, nous sommes les derniers des hommes. Des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. D'ailleurs, dans l'introduction de la lettre aux Corinthiens, il dit, ne soyez pas surpris, c'est les gens vous prennent pour des fous en croyant en Jésus-Christ, puisque la crucifixion, d'être sauvé par Jésus qui doit mourir sur une croix, c'est de la folie pour ceux qui se perdent. Donc forcément, ils vont considérer que vous êtes fous. Sauf que vous, vous voulez vous présenter comme étant plus intelligent que tout le monde. Alors que normalement, il dit, le monde devrait vous considérer comme fou. Donc nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Paul dit, voici ce que moi, je vis en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, ayant rencontré Jésus ressuscité, qui m'a confié cette mission d'apporter l'évangile de par le monde, et surtout de devenir le fondateur de votre église et votre père spirituel. Donc verset 14, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. » Mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Paul dit, apprenez de mon exemple. La vie chrétienne n'est pas toujours simple. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut quand on veut. En tout cas, pas encore. Puisque Jésus n'est pas encore revenu, son royaume n'est pas encore établi sur la terre, nous vivons encore sous les effets de la chute, il faut attendre le retour du Seigneur. Et donc, tout comme l'apôtre Paul dit, apprenez de mon exemple, pour savoir que même si vous passez par là, c'est normal. L'auteur de cette lettre aux Hébreux fait la même chose en soulignant l'exemple de Jésus-Christ. Paul pouvait dire, moi je suis votre Père Céleste, je suis apôtre de Jésus-Christ. Et regardez les circonstances par lesquelles je dois parfois passer. Mais il va dire, mais Dieu est fidèle. Dans toutes ces circonstances, il veille sur nous. Il nous aide à ne jamais être totalement écrasés. Mais nous passons quand même par cela. L'auteur, ici, il dit, mais pensez à Jésus. Donc, regardons en arrière vers cette grande nuée de témoins. Mais ayons aussi, verset 2, les regards sur Jésus, qui, encore plus que l'apôtre Paul, suscite la foi et l'amène à la perfection, qui finalement on peut traduire est le point de départ et la point final de notre foi. Jésus, le fondateur de notre foi, Jésus, notre sauveur, Jésus qui, tout en étant le Fils de Dieu, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu après être passé par toutes ces choses. L'auteur, en quelque sorte, est en train de nous dire, si parfois le chemin peut être difficile, si parfois il y a des souffrances par lesquelles passer, ben, ne vous dites pas qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'en tant que chrétien, vous ne devriez pas passer par là. D'ailleurs, l'apôtre Pierre aussi, dans sa première lettre, chapitre 4, verset 12, il écrit aussi, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Comme si ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre vie chrétienne. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Tenez bon, continuez à être fidèles au Seigneur jusqu'au bout, parce que comme ça, vous allez participer à son règne, à sa gloire, lorsque Jésus va revenir pour établir son règne, son royaume éternel. En quelque sorte, l'auteur, ici aux Hébreux, nous dit, réfléchissez un peu. Vous êtes devenu chrétien. Vous avez mis votre foi en Jésus. Jésus, le fondateur de ce royaume, de notre foi, il n'a pas toujours connu des jours uniquement glorieux. Il a dû souffrir tout en étant dans le plan de Dieu. On ne peut pas dire que si Jésus a souffert des choses, c'est parce qu'il avait péché. Parce que la Bible nous dit qu'il est sans péché. Tenté en toutes choses comme nous, et pourtant sans péché. On ne peut pas dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa relation avec Dieu. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Dieu le Fils, une des personnes de la Trinité, toujours en relation avec son Père. Et toute la foi chrétienne est fondée sur le fait que dans le plan de Dieu, il a souffert, il est passé par des difficultés avant d'atteindre la gloire. Et donc, Paul pouvait aussi dire aux chrétiens dans Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est passé par des moments de joie, mais aussi par des moments de tristesse, des moments difficiles. Si vous lisez les récits de Jésus dans le jardin de Gethsemane, il n'était pas indifférent devant ces souffrances qu'il devait subir. Il savait que ce n'était pas facile. L'auteur aux Hébreux dit, vous n'êtes pas encore arrivé jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Jésus, si. Jésus a dû verser son sang à cause même pas de ses péchés, mais des nôtres. Et dans le jardin de Gethsemane, la Bible nous dit qu'il était tellement stressé à l'idée des souffrances qui allaient venir, ça lui pesait tellement que d'une part, il disait à ses disciples, « Mon âme est triste à mourir », et que sa sueur se mélangeait avec du sang, tellement il subissait cette situation. Et lui, il est le Fils de Dieu sans péché. Et il pouvait dire en Jean 13, verset 16, « en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Donc l'auteur nous dit, « Regardez à Jésus. Si vous avez peur de ne pas pouvoir aller au bout, regardez Jésus. Soyez inspirés par l'exemple de Jésus. Suivez son exemple de foi dans le Père. De pouvoir prier justement dans ce moment de stress intense. Père, s'il y aurait un autre moyen dans ton plan que de passer par la croix, que cela puisse se faire. Mais s'il faut passer par là, que ta volonté et non pas la mienne soit faite, je te fais confiance. Je sais qui tu es, je sais que tu es mon Père, je sais que tu m'aimes. Et donc je suis prêt à passer par ces moments-là avec toi pour atteindre la gloire. Parce que l'auteur nous dit, c'était en échange de la joie qui lui était réservée qu'il a souffert la croix. Il savait ce que Dieu avait planifié pour l'avenir, et du coup, il a dit, coûte, je vais aller jusqu'au bout avec mon Père pour réaliser ses plans, parce que je sais qu'il y a la gloire qui va suivre. Donc, l'auteur de cette lettre nous encourage, quand on passe par des moments difficiles, à se laisser inspirer par les exemples de ceux qui nous ont précédés, mais surtout de nous laisser inspirer par l'exemple de Jésus. Et puis donc, il nous dit, parce que si nous suivons l'exemple de Jésus, nous allons découvrir que nous allons suivre son exemple jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque dans la gloire. Comme Jésus maintenant, il est dans la gloire parce qu'il a tenu bon, parce qu'il a fait confiance au Père, parce qu'il a vécu par la foi jusqu'au bout et il a vu le Père réaliser cette promesse de le faire asseoir dans la gloire après avoir accepté de suivre le plan de Dieu. Et donc l'auteur nous dit, regardez donc en arrière vers les autres, regardez en haut vers Jésus, mais aussi regardez en avant, parce qu'il y a cette gloire qui a été promise à Jésus, qui vous est promise aussi, si vous suivez le Seigneur fidèlement jusqu'au bout. Considérez donc celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Rappelez-vous donc que vous êtes appelés à être des enfants de Dieu. Et la Bible dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Il dit, le but, c'est de rencontrer le Seigneur, d'entrer dans sa gloire, d'être ses enfants. Le but, verset 14, c'est de voir le Seigneur. Le but, nous dit-il, verset 22, c'est de connaître et de participer dans ce royaume véritable. Il dit, vous, ce n'est pas un royaume de ce monde auquel le Seigneur vous a appelé, mais c'est la montagne véritable de Sion. C'est la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. C'est le cœur des anges, c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est d'entrer dans la présence du Dieu qui est juge de tous, c'est de connaître Jésus à cause de son sang qui a été versé. Verset 28, c'est pour recevoir un royaume inébranlable. Il ne faut jamais oublier. Même si parfois être chrétien n'est pas toujours drôle dans ce monde, on n'est pas chrétien que pour ce monde. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, si c'est uniquement pour être bien dans cette vie, dans ce monde, que nous sommes chrétiens, nous sommes les plus à plaindre de tout le monde. On n'a rien compris. Il dit, mais ce n'est pas ce monde-ci qui nous donne le bonheur, qui est notre objectif. Ce n'est pas pour juste hériter les choses qui, de toute façon, au dernier jour, vont disparaître que nous sommes devenus chrétiens. C'est pour recevoir et hériter les choses éternelles, le royaume de Dieu, là où est notre Père, là où est Jésus, ce royaume inébranlable que nous avons été appelés et que nous sommes appelés à être des héritiers. Il dit, suivez l'exemple de ceux qui nous ont précédés, suivons l'exemple de Jésus, parce que comme eux, nous aussi, si nous tenons ferme jusqu'au bout, nous entrerons dans la gloire de ce royaume éternel. Ça vaut la peine, dit l'auteur. Parfois, il y aura des difficultés, heureusement pas tous les jours. Il y a plein de moments de joie, plein de moments fantastiques avec le Seigneur, mais il dit, les jours où c'est plus difficile, les jours où vous vous dites, oh ben finalement, peut-être si j'abandonnais les voies du Seigneur, je m'en sortirais mieux, il dit, ben détrompez-vous. Rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Et accrochez-vous en regardant les exemples de Jésus et de ceux qui vous ont précédé. Le diable va chercher à profiter de ces moments-là pour nous décourager dans notre foi, pour nous faire douter de l'amour et de la bonté de Dieu, et pour nous dire, ah ben, finalement, peut-être vous feriez mieux de faire quelques compromis, d'abandonner les voies du Seigneur. Vous voyez, lui, il vous conduit dans des difficultés. Un peu comme il disait à Jésus, vous voulez échapper à la croix? Moi, je peux vous donner le moyen d'échapper à la croix. Adorez-moi, mettez-vous à genoux devant moi et je vous donne tous les royaumes de ce monde. Parfois, il nous dit à nous, abandonnez les voies de Dieu, ça ira mieux. Vous allez pouvoir arranger les choses plus tard avec le Seigneur. Ce n'est pas grave. L'auteur nous dit, n'oublions pas, non seulement l'exemple des hommes de foi qui sont allés jusqu'au bout, mais n'oublions pas non plus les exemples de ceux qui ont fait naufrage, ceux qui ont fait des compromis. Qu'il n'y ait parmi vous personne comme Ésaü. Ésaü s'est dit, mais à quoi bon attendre l'héritage? J'ai faim maintenant, je veux manger maintenant. Ça ne me sert à rien d'attendre jusqu'au bout. Bon, d'accord, il va falloir sortir des voies prévues par Dieu. Mais finalement, ça va bien me remplir le ventre. Ésaü, pour un mais, vendit son droit d'aînesse. Et vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, il ne put emmener son père à changer de sentiment. N'écoutons pas la voix de l'ennemi lorsqu'il essaye de nous persuader que nous serions mieux d'abandonner les voies du Seigneur. L'auteur nous dit, regardons en avant vers cet héritage qui est prévu pour nous. Tenons ferme, parce que si nous tenons ferme avec le Seigneur, si nous vivons par la foi dans le Seigneur, dans ses voies, jusqu'au bout, comme Jésus, nous connaîtrons la joie qui nous est réservé. Tout comme Jésus a subi la croix, l'ignominie, mais il est entré dans la joie qui lui était réservée. Donc parfois, peut-être même en ce moment, certains d'entre nous passent par des moments difficiles, par des moments de découragement, par des moments où l'ennemi cherche à nous dire « Ah ben c'est ça, être chrétien. » Mais soit Dieu ne t'aime pas, soit tu t'es trompé, soit de toute façon, tu ferais mieux d'arrondir les angles et de sortir un peu des voies de Dieu pour pouvoir après chercher à arranger les choses. L'auteur de cette lettre nous dit, n'écoutez pas cette voix-là. Tenez ferme jusqu'au bout. Regardons en arrière vers les exemples de foi et les exemples de naufrage. Regardons en haut surtout vers l'exemple de Jésus, l'auteur de notre foi, et regardons en avant vers cet héritage que Dieu nous a promis. L'apôtre Pierre nous dit, cet héritage est réservé, gardé dans le ciel par le Seigneur pour nous, en attendant le jour du retour du Seigneur. Et ça vaut bien au-delà de tout ce que ce monde peut nous offrir. Ça vaut donc la peine, dit-il, de tenir ferme jusqu'au bout. Donc, quand on passe par des moments difficiles, ne soyons pas déstabilisés, mais continuons tous les jours à marcher par la foi, convaincus que Dieu est là avec nous, que pour ces raisons, il nous permet de passer par cette situation-là, pour qu'on apprenne des leçons importantes, mais surtout pour que nous tenons fermement à lui jusqu'au bout, afin d'entrer dans cette joie. qui est réservé pour vous.